France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Fanny Richet, Louan Deniel et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le troisième volet de la série que nous consacrons aux mécaniques de la guerre en Iran et au Moyen-Orient, du moins ce que l'on en sait et comprend. Aujourd'hui, une guerre menée au nom de la non-prolifération nucléaire, c'est l'argument officiel.
La politique des États-Unis, en particulier celle de mon administration, a toujours été que ce régime terroriste ne puisse jamais posséder d'armes nucléaires. Je le répète, ils ne pourront jamais posséder d'armes nucléaires.
Je dis depuis de nombreuses années que l'Iran menace non seulement Israël et les États-Unis, mais aussi les pays situés entre les deux, notamment en Europe. C'est ce qu'ils ont fait. Et si ce régime terroriste, comme on n'en a jamais vu dans le monde, s'il se dote d'armes nucléaires et des moyens de les lancer, des missiles balistiques intercontinentaux, il menacera l'humanité tout entière.
Cet événement, cette guerre qui a été lancée contre l'Iran, peut inciter non seulement l'Iran, mais aussi ses pays voisins turcs ou arabes à chercher à se doter d'armes nucléaires.
Si ce n'était pas aussi grave, il pourrait devenir un jeu de déceler dans les déclarations des uns et des autres sur le nucléaire militaire, y compris celle à l'instant de Sergueï Lavrov, toutes les hypocrisies ou pieux mensonges qui permettent à chaque État de se draper du voile de la non-prolifération pour ne contraindre que leurs adversaires stratégiques. Ainsi, l'Iran a-t-il été attaqué officiellement pour l'empêcher de se rapprocher de la possession de la bombe, en même temps que pour en finir avec une république islamique qui brise les Iraniennes et Iraniens jusqu'à l'os, et ça personne ne le nie, sauf qu'à chaque soulèvement, à chaque moment où des vies ont été sacrifiées dans la rue, les négociations internationales avec l'Iran ont repris sur le dossier nucléaire. 2022, le si vaste mouvement Femmes, Vie, Liberté, eh bien c'est le moment que choisir les Occidentaux et l'Arabie Saoudite pour engager un jeu diplomatique avec l'État iranien, le forcer à négocier en situation de faiblesse. Et c'est un peu comme si l'on disait au peuple iranien, plus vous vous soulevez contre votre État, et plus nous discutons avec lui. À l'inverse, c'est alors que les négociateurs du dossier à Oman disaient qu'un accord était à portée de main, que les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder, entérinant sous les bombes un ordre nucléaire mondial à leur avantage et encourageant à minima les États dotés à se doter encore plus, confère le discours d'Emmanuel Macron à Lille Longue le 2 mars dernier, annonçant que la France abandonnait sa doctrine de stricte suffisance pour augmenter encore la taille de son arsenal. Alors cette guerre a-t-elle déjà de facto changé les règles de la non-prolifération ? Bonjour Benoît Pélopidas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po, au CERI, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires, auteur de « Repenser les choix nucléaires » paru aux presses de Sciences Po. Alors avant de dérouler ces savoirs nucléaires et aussi tout ce qu'on ne sait pas, parce que on peut d'ailleurs le préciser d'emblée, Benoît Pélopidas, vous tenez à dire à nos auditeurs et auditrices que vous n'êtes pas spécialiste de l'Iran, que ce n'est pas ça votre propos.
Absolument. Et je vous remercie de rappeler en fait aux auditeurs qu'on est en train de faire du commentaire à chaud en situation de guerre, où le paysage informationnel a essentiellement trois problèmes. Le premier, c'est qu'évidemment, on est pris dans des discours qui sont les discours des protagonistes de la guerre, et qui, comme vous l'avez fait entendre, sont des discours incompatibles les uns avec les autres. Le deuxième obstacle, c'est la question du brouillard de la guerre, le fait qu'évidemment il y a des choses que nous ne savons pas, que nous ne savons pas encore et que peut-être nous ne pourrons pas savoir. Et le troisième obstacle, c'est simplement qu'il y a des agendas politiques qui sont portés par de la production de connaissances elles-mêmes déterminées par des conflits d'intérêts. Et c'est là que moi j'interviens. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran, je ne parle pas persan. Par contre, j'ai passé les 20 dernières années à travailler sur une histoire globale de l'âge nucléaire et donc sur des dynamiques comme la contre-prolifération par la force, sur la base du refus du financement porteur de conflits d'intérêts. Et c'est de ce point de vue-là que je m'adresse à vous.
Alors, pour vous informer en ce moment, Benoît Pelopidas, quelles sont vos sources pour savoir notamment, parce que j'imagine que cette question vous intéresse, ce que les images satellitaires nous disent, par exemple, pour estimer l'impact réel des frappes américaines et israéliennes sur les sites et outils de production ou d'enrichissement d'uranium en Iran?
Alors, oui, je pense qu'on peut parler là de trois sources, mais juste, je veux dire que c'est important, en fait, de poser la question que vous posez, simplement parce que la première énigme, c'est que en juin 2025, quand les États-Unis bombardent, le président Trump et plusieurs membres de son administration disent « on a oblitéré la totalité du programme nucléaire iranien, comme s'il ne restait plus rien ». Et donc là, on nous explique 6 mois plus tard que, 6 mois après l'oblitération, il y avait encore quelque chose à re-oblitérer.
Ils ont oublié quelque chose, voilà, peut-être.
Ça pose déjà une énigme. Et donc, on a en fait 3 types de sources. Là, les sources des officiels américains avant et après la première attaque. Le discours du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 9 mars, et je vais vous parler de ça spécifiquement, et les collègues qui font de l'analyse en source ouverte. Donc, ce qui pose l'énigme matériellement pour l'Iran, c'est que en juin 2025, ils avaient effectivement des matières fissiles en quantité substantielle. On a évalué à 440 kg d'uranium enrichi à 60% sous forme gazeuse, disaient les Américains. Et le 9 mars, donc très récemment, le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a dit à peu près 200 kg enrichis à 60%, soit assez pour fabriquer 5 bombes. Mais le point, c'est que la question, c'est est-ce que ces matières fissiles sont, un, intactes, et deux, accessibles?
D'autant que c'était toutes les questions que posaient aussi les attaques israéliennes et états-uniennes sur l'Iran en juin 2025. On sait que l'uranium, ça se déplace facilement pour le faire échapper aux frappes et que en juin, notamment lors de cette guerre dite des 12 jours, eh bien, on avait vu 16 camions autour du site de Fordo 48 heures avant les frappes se positionner, peut-être pour extraire et exfiltrer l'uranium, que peut-être l'Iran a enterré des systèmes pour résister aux explosifs. En tout cas, il y a toutes les incertitudes autour de ces questions. Mais, comme vous le dites, Donald Trump, à l'époque, était très sûr de lui. On a oblitéré toutes les capacités nucléaires iraniennes.
Il y a peu, l'armée américaine a mené des frappes de précision massives contre les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Fordo, Natanz et Isfahan. Tout le monde connaît ces noms depuis des décennies du fait de cette entreprise terriblement destructrice. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre fin à la menace nucléaire que représente l'État champion du monde dans le soutien au terrorisme. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que ces frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement détruites.
Détruites ou oblitérées, donc, selon la formule de Donald Trump le 22 juin 2025. Benoît Pelopidas, dans quelle séquence historique s'inscrit cette guerre menée officiellement au nom de la contre-prolifération nucléaire? À combien de reprises ce type d'argument a-t-il été déjà mobilisé dans la courte histoire de la bombe atomique? Par qui et contre qui?
Alors, deux réponses à ça, voilà, en partant de ce qu'on se disait à l'instant, c'est-à-dire que M. Trump, là, il ne nous fait pas un état des lieux, il nous fait de la communication stratégique d'un belligérant en situation de guerre pour expliquer au public international qu'il a raison de continuer à faire ce qu'il fait. Donc, le premier pas de côté, à peu près complètement surprenant, c'est que quand on cadre la question comme ça, on a l'impression que le sujet du moment qui accélère partout, c'est la prolifération. Donc, effectivement, la possibilité de la prolifération nucléaire est un problème et est un problème dont il faut se soucier. On parlera ensuite de quelles sont les mesures efficaces ou pas. Mais ce dont il faut se rappeler, contrairement à l'ambiance là, c'est qu'on est dans un moment sans précédent de non-prolifération. Et je vous donne des mesures un peu précises de ça. Ça fait 19 ans qu'on n'a pas eu de nouvel entrant dans le groupe des États dotés d'armes nucléaires. Le dernier entrant, c'est la Corée du Nord qui fait un essai en octobre 2006. Un autre exemple, si on prend un autre critère, c'est juste le nombre de programmes en cours. On en a là un avec l'Iran, et c'est un problème. Mais il faut se souvenir que pendant la guerre froide, on en a systématiquement eu davantage, et jusqu'à 11 au même moment. De la même manière, si les armes nucléaires sont présentées comme des problèmes, notamment parce qu'il peut y avoir des accidents, elles peuvent être volées, il peut y avoir des problèmes de terrorisme, il faut aussi se poser la question des armes déployées sur les territoires des États dits hôtes. Eh bien, de la même manière, pendant la guerre froide, on avait jusqu'à 18 États hôtes qui hébergeaient des armes nucléaires. Aujourd'hui, on en a 6. Donc la question... Et ensuite, je zoome sur la région. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est, étant donné qu'on est dans une période sans précédent de non-prolifération, une dernière mesure. En moyenne, pendant la guerre froide, on avait un nouvel entrant dans le club nucléaire tous les 5 ans. Là, ça fait littéralement 35 ans qu'on en a eu un. Comment est-ce qu'on fait pour rester dans cette période de non-prolifération? Et donc la question, c'est, est-ce que les mesures d'usage de la force sont des encouragements à la prolifération ou au contraire des mesures efficaces? Et ça, on va en parler. Je reviens sur l'autre bout de votre question, qui est le bout régional. C'est-à-dire que le Moyen-Orient est très très fréquemment la cible de la contre-prolifération par la force, surtout depuis les années 90. Alors, votre question, elle était globale sur l'âge nucléaire. Ça commence la contre-prolifération par la force pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés utilisent la force pour se saisir de l'eau lourde qui était en Norvège occupée par les Allemands. Et on a 16 opérations de non-prolifération ou contre-prolifération par la force jusqu'en 2007. Depuis la fin de la guerre froide, ce qui est frappant, c'est que l'Irak est frappé régulièrement et avec une intensité croissante. En 91, 93, 98, jusqu'à la guerre en Irak, qui était une guerre de non-prolifération, la Syrie est frappée par Israël en 2007 et l'Iran en 2025 et maintenant aujourd'hui.
Pardon, sur l'Irak, l'armée israélienne avait bombardé en mai 91 le réacteur irakien Osirak. Ce bombardement avait été présenté comme un succès. Il faut dire que ce réacteur irakien, qui avait été une copie du réacteur nucléaire de recherche français Osiris, la France en avait vendu la technologie en 75 à Saddam Hussein, comme elle lui aurait vendu Fleury Michon, comme disait un expert du nucléaire dans une grande traversée consacrée à la bombe nucléaire sur France Culture l'été dernier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter que c'était un succès, que ces opérations ont empêché, en l'occurrence Saddam Hussein, d'utiliser cette arme par la suite?
Alors, parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui ont travaillé et qui ont prouvé que c'était pas le cas. Mais je précise la chose. C'est vrai que des dirigeants américains en 91 ont conduit leur politique en 91 en présentant le précédent d'Irak comme un succès. En disant ça a privé Saddam Hussein d'armes nucléaires au moment de l'opération Tempête du désert. Mais regardons de plus près. Qu'est-ce que ça a fait? Alors, en termes d'effets favorables, effectivement, ça a détruit le réacteur. Et ça c'est favorable. C'est-à-dire, je vous le dis parce que l'opération sur Osirak, qui s'appelle l'opération Babylone, le 7 juin 1981,
c'est 80,
elle réussit là où des Iraniens, un an avant, avaient échoué. Il y a eu d'autres tentatives de détruire ce réacteur. Israël réussit. Donc ça, on peut se dire, cette capacité-là, elle n'est plus là. C'est vrai. De la même manière, comme vous le disiez avec le parallèle Fleury Michon, la France, après le bombardement, cesse de coopérer. Donc ça aussi, c'est un progrès. Mais il faut voir les effets pervers, qui ont ensuite été documentés par des collègues autres que moi. Notamment, le fait que Saddam Hussein, après ça, va libérer de prison un savant atomiste qui s'appelle le docteur Jafar, à qui il va confier la mission de produire un programme d'armement nucléaire le plus rapidement possible avec un budget illimité, le fait qu'il va faire des efforts redoublés pour produire de l'uranium hautement enrichi, et que, du fait du bombardement, il va changer sa technique de développement du programme. On va passer du retraitement à l'enrichissement, et l'enrichissement est plus facile à enterrer. Et donc, vous voyez, ceux qui ont travaillé sur les effets à long terme de ce bombardement montrent que les effets négatifs sont supérieurs aux effets positifs.
Donc, si on résume, Benoît Pelopidas, trois États se sont livrés à des bombardements au nom de la non-prolifération nucléaire. Ce sont les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni, principalement contre des États du Moyen-Orient, donc l'Irak, la Syrie en 2007 et aussi en Iran, notamment dès les années 2010 avec l'assassinat de savants atomistes. Il faut d'ailleurs préciser qu'en 1980, déjà, le scientifique en charge du programme nucléaire iranien, Yahya c'était iranien ou irakien, Yahya El-Meshad, qui avait été assassiné à Paris. En tout cas, ça fait partie des opérations de contre-prolifération aussi que ces assassinats ciblés de scientifiques. Est-ce que les États-Unis se sont toujours donné ce rôle principal d'être ceux qui se battraient, disent-ils, contre la prolifération partout dans le monde ?
Alors, oui, deux choses. La première, effectivement, la campagne d'assassinat des savants atomistes, c'est une campagne au long cours qui commence, quand on parle des savants atomistes iraniens, c'est une campagne au long cours qui commence dans les années 2010 et qui est surtout documentée par le journalisme d'enquête. Le rapport des États-Unis à la non-prolifération est une question essentielle. Et là, sur ça, je vais développer un peu. Parce que, effectivement, les États-Unis se présentent et sont souvent perçus comme le parangon de la non-prolifération. Ils ont été les supporters du traité de non-prolifération qui entre en vigueur en 1970, qui est prolongé indéfiniment en 1995 et qui est aujourd'hui le traité multilatéral le plus abondamment ratifié. Mais si on regarde le détail de la pratique des États-Unis, on s'aperçoit, si on mesure l'assistance à la prolifération, que les États-Unis est l'État qui a le plus souvent aidé à la prolifération. Je m'arrête là, vous me dites si vous voulez des exemples.
Mais j'aimerais savoir justement quel a été le rôle des États-Unis dans la prolifération nucléaire en Iran particulièrement, puisque on peut quand même rappeler que à l'origine, alors il y avait la France surtout, mais quand c'était encore le Shah au pouvoir, donc dans les années 70, la France avait signé avec l'Iran un contrat pour le développement en commun d'une usine d'enrichissement d'uranium. Le Shah d'Iran lui-même disait que le pays serait bientôt la cinquième puissance nucléaire mondiale. Est-ce qu'à ce moment-là, les États-Unis ont contribué à l'aider à le faire, ou est-ce qu'au contraire, ils ont précipité sa chute aussi à cause de ça ? Est-ce que ça, on a des documents qui attestent du rôle des États-Unis sur le programme nucléaire iranien à partir déjà des années 70 ?
Alors, pour le rôle des États-Unis sur le programme iranien, j'ai pas vu de documents. Il faudrait poser la question à mon collègue Clément Terme. Et donc, le fait que j'en ai pas vu ne vous dit rien sur le fait qu'ils existent ou pas.
Mais alors, ils ont livré quand même un réacteur. Alors, c'était au nom du nucléaire civil. Ouais. Ils ont livré un réacteur et des ingénieurs qu'ils ont envoyés sur place, ou même en France à partir de 56 officiellement. Donc, il s'agissait de nucléaire civil.
Oui, oui. Et c'est là, si vous voulez, qu'il faut discuter justement le rôle des États-Unis plus largement dans la diffusion de la technologie et dans la diffusion de la valorisation des armes nucléaires comme instrument de sécurité nationale. Parce que c'est ça qu'il faut aussi voir. C'est-à-dire que tout ce débat, toute cette discussion sur qu'est-ce qui marche en termes de non-prolifération, de contre-prolifération, suppose, on l'a dit, qu'on est dans une période de prolifération, ce qui, en termes des nouveaux États, n'est pas vrai, mais ça suppose aussi que tout le monde veut l'arme nucléaire et que ceux qui ne l'ont pas, c'est qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Donc il faut bien se souvenir que 153 États n'ont jamais même essayé de développer ces systèmes d'armes nucléaires, et ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement fous et qu'ils n'ont pas de stratégie de sécurité nationale. Ils ont considéré que ces systèmes d'armes n'étaient ni nécessaires ni bénéfiques à leur stratégie de sécurité nationale, et donc étant donné que l'accès à la technologie est aujourd'hui plus facile que par le passé, il est essentiel de ne pas les convaincre de changer d'avis. Donc, je reviens sur votre question sur les États-Unis. On a la preuve, évidemment, que les États-Unis ont aidé d'abord le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni était un membre fondateur du projet Manhattan. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont d'ailleurs scellé un pacte de défense mutuelle en 58. Ils ont aidé, c'est étonnant, parce qu'en France, on ne veut pas vraiment en entendre parler, mais ils ont aidé la France dans un premier temps, et ça a été établi par le travail de mon collègue Jacques Villain, même si ensuite, ils se sont opposés au programme français.
La France qui a eu aussi longtemps un double discours sur le nucléaire en disant « on développe notre nucléaire civil », mais on sait aujourd'hui avec le recul que les réacteurs de Marcoule dans le Gard ou de Chinon étaient optimisés à l'époque pour produire du plutonium militaire. Comme si un peu tous les États dotés de la bombe avaient à un moment été passés par cette phase en disant « on fait du nucléaire civil », mais en réalité ça aboutissait à du nucléaire militaire, ce qui peut aussi rendre un petit peu suspicieux quant à l'attitude de l'Iran.
Oui, oui, bien sûr. Je termine sur les États-Unis et le fait qu'ils ont effectivement été actifs dans la prolifération. Donc, je vous ai dit, la France, le Royaume-Uni, ils sont restés muets face à l'acquisition par Israël d'armes nucléaires au cours des années 60, aussi avec l'aide de la France. Ensuite, ils ont aidé le programme de l'Afrique du Sud de l'apartheid. La CIA a choisi de ne pas se soucier, au début des années 70, de 4600 tonnes d'oxyde d'uranium destinées à être enrichies. Oui, mais il faut préciser ça un peu en détail, parce que sinon tout le monde peut, vous voyez, dire à peu près n'importe
oui,
quoi.
Oui, mais parce que vous l'avez déjà fait dans Culture Monde, c'est pour ça que je vous faisais un petit signe pour vous dire qu'on va aussi se recentrer sur la guerre en cours. Mais allez-y, il y a l'Afrique du Sud.
Je finis sur l'Afrique Israël. Du Sud. En 74, on a quand même un stade où l'Agence sud-africaine de l'énergie atomique dit qu'elle va être capable d'assembler une tête nucléaire opérationnelle. Et face à ça, les États-Unis... Et vous voyez, ça, c'est des documents d'archives qu'on a découverts récemment. C'est pour ça que je me permets de prendre le temps de le dire. Donc ça, il faut le savoir. Et après, il y a effectivement encore d'autres cas. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège des États-Unis comme hégémone de la non-prolifération. Et tout dernier exemple, et ça vous l'avez traité dans d'autres émissions, on sait aussi que dans le cas de l'Irak de 2003, au moment où les États-Unis disent la non-prolifération est la cause de la guerre, le renseignement américain dispose de preuves suffisantes selon lesquelles cet argument n'est pas valable. C'est-à-dire, les États-Unis eux-mêmes, au moment où le discours officiel est de dire ça, savent que c'est faux.
Avec cette scène bien connue de Dick Cheney qui...
Colin Powell.
Colin Powell, pardon, qui secoue les échantillons, les fameux pseudo-échantillons devant le Conseil national, le Conseil de... Ah, je vais pas y arriver. De sécurité de l'ONU. Je vous remercie. Donc, voilà, vous avez rappelé tous les États que les États-Unis ont aidé à développer des programmes d'armement nucléaire, y compris Israël. Israël qui n'a jamais changé de discours sur le nucléaire iranien, qui a toujours affirmé que l'Iran ne disposera pas de la bombe. Comment expliquer, Benoît Pélopidas, que l'État hébreu, dont il est admis depuis 1967 qu'il possède la bombe, n'a jamais été forcé, de son côté, d'adhérer au traité de non-prolifération signé l'année d'après? L'Inde et le Pakistan ne l'ont pas fait non plus. Comment expliquer ceci, qu'il n'y ait pas eu de mesures de rétorsion face à... Ou alors ils ne sont pas obligés de le faire? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce TNP qui n'oblige pas des États déjà dotés d'y adhérer?
Alors, donc parlant du TNP, il y a quelque chose d'un peu étonnant dans le traité de non-prolifération, dans le fait que ce traité distingue deux statuts pour les États. Dans le cadre du TNP, il y a les États dotés et les États non dotés. Et intuitivement, vos auditeurs sans doute se diront, c'est facile, les États dotés sont les États qui possèdent des armes. En fait, dans le traité, le critère n'est pas celui-là. Compte comme un État doté les États qui ont détonner un explosif nucléaire avant le 1er janvier 1967.
Donc si vous l'avez fait après, vous n'êtes pas susceptible...
Mais c'est pour ça que je vous en parle. Mmh. C'est-à-dire que si on applique ce critère à l'histoire nucléaire israélienne, alors Israël est un État non doté. Il y a effectivement un essai nucléaire dont on a connaissance dans le cas d'Israël. Il a eu lieu en septembre 1979 avec l'aide de l'Afrique du Sud. Mais vous voyez bien, ce critère-là ne permettrait pas de qualifier Israël comme État doté dans le cadre du TNP. Et donc, on a effectivement un traité de non-prolifération qui a ce problème-là. C'est-à-dire que Israël reste extérieur au traité. L'Inde et le Pakistan, qui sont aussi des États dotés, restent extérieurs. Et depuis 2003, la Corée du Nord est sortie du traité.
Elle en est sortie, la Corée du Nord, et d'ailleurs elle est en train en ce moment, à l'aune de cette guerre, de muscler encore son arsenal et notamment sa marine. Quand Benoît Pelopidas vous expliquait que combien les États-Unis ont aidé à un moment Israël à se fournir en matière qui lui permettrait à terme de fabriquer la bombe, est-ce que la logique était politique ou elle était commerciale à l'époque? Il s'agissait simplement d'une affaire économique et de gros sous.
En fait, j'ai pas de bonne réponse à cette question-là, parce que la question, on peut la poser au niveau des si vous la posez au niveau des décideurs, si vous la posez au niveau des entreprises, vous trouvez pas la même réponse. Je pense que le problème, c'est effectivement, par contre, que il faut manœuvrer les incitations pour que les coalitions favorables à l'acquisition de ces technologies perdent les batailles politiques et bureaucratiques domestiques.
Alors en général, dans Culture Monde, on cite très peu les enquêtes d'opinion. Et je vous sais, Benoît Pelopidas, très pointilleux dans ce genre d'exercice que vous menez dans votre laboratoire de recherche sur le choix des mots, la représentativité de vos répondants, comme on dit. Et en 2024, vous avez publié un sondage selon lequel 42% des Français croient que l'Iran a déjà la bombe et que seuls 43% identifient Israël comme possédant des armes nucléaires parmi une liste de pays que vous leur avez proposé. Alors plutôt que nous étaler dans des statistiques qui ne doivent pas nous faire pâlir parce qu'elles pâlissent elles-mêmes rapidement, comme je ne sais plus qui disait, comment expliquer qu'en 2024, on ne sait pas qu'Israël possède la bombe?
Alors oui, ça pour moi c'était un résultat vraiment surprenant, c'est-à-dire il faut juste clarifier les implications, c'est-à-dire matériellement aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a un État doté d'armes nucléaires depuis 1967 et c'est Israël. Sachant que, évidemment, Israël est unique dans le fait que sa communication continue de dire qu'il n'en dispose pas, tout en s'assurant que tout le monde le sait qu'ils en disposent. Hein. C'est une politique qu'en hébreu on appelle amibout, opacité. Et donc, l'Iran ne dispose toujours pas d'un arsenal nucléaire, on l'a dit tout à l'heure, il dispose de matières fissiles qui pourraient éventuellement leur permettre de fabriquer 5 bombes. Mais, et la chose importante, c'est que la géographie mentale de nos sondés, en 2019 et en 2024, c'était à peu près stable, est inversée. C'est-à-dire ici, une partie non négligeable, 40%, pense que l'Iran a la bombe, ce qui est faux. Et seuls 40% pensent qu'Israël a la bombe, ce qui veut dire qu'il y a 60% des gens qui se trompent. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cet état des lieux? Y a une explication qui est simplement la focalisation excessive sur le discours officiel. Et l'autre explication, c'est le cadrage et la réduction du problème nucléaire à un problème de prolifération. Parce qu'effectivement, si le problème nucléaire est un problème de prolifération, alors le problème, c'est l'Iran. Et ça, quand on étudie les représentations du phénomène nucléaire, pas seulement dans l'opinion publique, mais aussi dans la presse, et on l'a fait à partir de trois publications qui couvrent un peu le spectre politique, Le Figaro, Le Monde et Libération, on arrive à montrer vraiment la réduction du problème nucléaire au problème de la prolifération qui aboutit justement à ces déformations-là.
Alors que vous ne cessez de dire que la prolifération aujourd'hui, elle est essentiellement verticale, c'est-à-dire que ce sont les États déjà dotés qui ne cessent d'augmenter leurs arsenaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que le TNP, donc ce traité dont vous parliez tout à l'heure, traité très important, les deux articles fondamentaux, ce sont le 1 et le 2 qui interdisent aux États qui n'ont pas d'armes nucléaires de s'en doter et aux États dotés de fournir des armes nucléaires à des États non dotés. Il y a aussi un article 6 sur le désarmement à l'initiative de petits États comme le Mexique ou l'Égypte où les États s'engagent à se lancer de bonne foi dans des discussions qui visent au désarmement général et complet. Et en attendant, les États déjà dotés continuent à muscler leurs arsenaux. Est-ce que c'est parce que ceux qui signent ces traités de non-prolifération ont souvent des arrière-pensées? Très bien, on s'engage à ne pas augmenter le nombre de missiles, mais en fait, on va augmenter le nombre de têtes par missile, par exemple? Ou est-ce que c'est vraiment le TNP qui permet cette prolifération verticale?
Alors, il y a beaucoup de questions là dans votre question. Je vais en prendre trois. Enfin, je vais prendre trois bouts. Le premier bout, c'est que y a un travail justement qui va paraître, qui montre qu'en fait, au cœur du TNP, il y a un effet de production de la désirabilité des armes nucléaires.
C'est-à-dire, on dit que le nucléaire, c'est une garantie nécessaire et irremplaçable de notre sécurité et de notre souveraineté. Donc, tous les autres se disent, nous aussi, on la veut.
Pas juste ça. L'effet de désirabilité, c'est simplement, et tous ceux de vos auditeurs qui ont des enfants vont comprendre ça, la façon dont le TNP traite les armes nucléaires, c'est de dire que c'est un objet très rare, très dangereux, interdit, et qui vous permet d'entrer dans un club très restreint des États dotés. Donc vous voyez, évidemment, quand vous dites ça, et si vous ajoutez à ça que les États qui en sont dotés disent que c'est une garantie nécessaire de la sécurité nationale irremplaçable, vous la rendez structurellement désirable. Une autre observation sur le TNP, vous avez mentionné l'article 6, avec donc l'obligation de désarmement nucléaire et de désarmement général et complet. Il y a une ambiguïté qui a été une ambiguïté diplomatique utilisée pendant des décennies dans cet article. Il faut préciser quand même que l'avis de la Cour internationale de justice en 1996... résout une partie de cette ambiguïté et dit l'obligation dans le cadre du TNP n'est pas juste une obligation de négocier de bonne foi, mais c'est une obligation d'atteindre un résultat. Et c'est du fait aussi de la déception des États non dotés en termes de désarmement qu'une partie des États non dotés ont été à l'initiative d'un autre traité qui s'appelle le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur en 2021.
Donc, États non dotés versus États dotés qui, eux, continuent à augmenter leurs arsenaux militaires tout en disant que c'est pour ne pas les utiliser parce que c'est ça la dissuasion.
Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. Cela pourra impliquer également du signalement. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégiques chez nos alliés. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Avec la dissuasion avancée, notre doctrine conservera ses fondations originelles, son caractère strictement défensif, le refus de la bataille nucléaire, la rupture totale et assumée entre le conventionnel et le nucléaire.
Le discours d'Emmanuel Macron le 2 mars dernier sur la base navale de l'île Longue. La France prête donc à abandonner le principe de stricte suffisance. Et parlons aujourd'hui de dissuasion avancée, de suffisance augmentée. Quelle importance avez-vous donné à ce discours, Benoît Pelopidas ?
Encore une fois, si vous voulez, il faut traiter la communication stratégique pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, au milieu de ce discours, il y a une contradiction frappante qui est que au moment où le président dit et répète, comme dans la revue nationale stratégique, que la France ne conduit pas de course aux armements, il explique que tous les autres se réarment, que l'arsenal nucléaire français, en l'état, peut produire la mort du monde, mais qu'en réponse à ce que font les autres, on est obligé d'augmenter de quelques dizaines le nombre d'armes. Donc, en fait, tout en répétant qu'on ne fait pas la course aux armements, il donne une preuve flagrante qu'on est en train de la faire. Mais surtout, ce qui est intéressant, en fait, dans ce discours, c'est que ça révèle qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à des discours, parce qu'il n'y a pas de capacités matérielles qui vont être construites aujourd'hui, qu'on n'a pas prévu de construire auparavant. Mais la nouveauté, par contre, qui est une nouveauté inquiétante et regrettable, c'est le fait que, depuis les années 70, la France, comme vous l'avez dit, utilisait la notion de stricte suffisance pour refuser la course aux armements. Et pour vous dire, quelle que soit la taille des arsenaux nucléaires des alliés ou des adversaires, pensons à l'adversaire soviétique, qui à l'époque avait des milliers, voire des dizaines de milliers de têtes, il n'est pas nécessaire disaient les Français, d'avoir autant de têtes que ça, il suffit d'être capable de leur arracher un bras. Donc le président Macron nous dit dans le même discours que nous sommes déjà très capables de faire ça et plus, mais que nous allons céder à la facilité, ce qui est une occasion historique manquée.
Alors, comme il a dit par ailleurs dans son discours qu'on vient d'entendre cet extrait, que la France ne donnerait plus de chiffres sur son arsenal nucléaire, on peut citer des chiffres parmi les derniers en date, entendus aussi dans la grande traversée sur la bombe atomique diffusée sur France Culture l'été dernier, où un général de l'armée française semble se réjouir au micro de Stéphane Bonnefoy et Yann Pérez en disant « Prenez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il compte 16 missiles. Dans un missile, vous mettez de 6 à 10 ogives nucléaires. Chaque ogive fait 100 kilotonnes. Dans un sous-marin, il y a 16 missiles, un seul sous-marin a donc déjà une capacité de destruction équivalente à 1000 Hiroshima, plus de 200 millions de morts. Et comme on a 4 sous-marins et qu'on peut en mettre 3 à la mer, eh bien on peut atteindre 600 millions de morts. Conclusion, c'est déjà suffisant. C'est suffisant, c'est le mot qui est employé.
Alors la réponse, elle tient en 3 lettres, oui. Mais pour être un peu plus précis, il faut se rappeler déjà que dans les années 50, on a des études parallèles au Royaume-Uni et en France sur combien d'explosions nucléaires suffiraient à détruire la totalité du pays au-delà de toute possibilité de revenir en arrière. Et dans les deux cas, on trouve entre 10 et 15. Donc ça, c'est quelque chose, parce que là, on leur a donné beaucoup de chiffres, c'est quelque chose qui est essentiel et que j'espère vos auditeurs vont retenir, c'est que la course aux armements qui est en cours est justifiée par les exigences de la dissuasion nucléaire. Comme si nous n'augmentions pas, nous ne pourrions plus pratiquer la dissuasion nucléaire. Et ça, c'est démontrablement faux. Les exigences de la dissuasion nucléaire, telles que définies par les états-majors des états dotés, sont considérablement inférieures à la taille des arsenaux existants. Je vous donne une preuve de ça américaine. L'amiral Charles Richard, qui était en charge de l'arsenal nucléaire américain, dit devant le Congrès en avril 2021, et je cite de mémoire, que... Alors, il faut préciser que l'arsenal nucléaire américain, c'est 3 composantes, une maritime, une terrestre, une aérienne. Et il dit, si jamais l'une des 3 était intégralement détruite, nous pourrions encore, avec les armes qui restent, non pas seulement assurer toutes les missions de dissuasion, mais assurer toutes les missions assignées à l'arsenal. Et dans ces missions, il n'y a pas que de la dissuasion. On est à ce point-là en excès par rapport aux exigences de la dissuasion. Je vous donne un autre exemple, une autre preuve historique qui vaut quand même la peine. En décembre 1964, le secrétaire américain à la Défense, Robert McNamara, dit au président Johnson, pour garantir la destruction assurée de l'Union soviétique, il nous faut 400 armes. Aujourd'hui, les États-Unis en ont 3700. Donc c'est pas du tout on peut continuer à dissuader avec des niveaux d'armes nucléaires bien plus faibles que ce qu'on est en train de construire.
Les discours sur la dissuasion qui ont commencé aux États-Unis déjà sous l'administration Eisenhower avec cette idée de montée en puissance de l'arsenal pour être crédible dans cet effort de dissuasion, et on avait bien vu côté soviétique la politique de rattrapage massif. Khrouchtchev qui disait que la Russie fabriquait des missiles comme elle fabriquerait des saucisses, et donc déjà cette course à la prolifération au nom de la dissuasion. Peut-être pour conclure cette première partie, Benoît Pelopidas, ces crises régionales, ces guerres et notamment celles en cours en Iran et au Moyen-Orient semble empêcher aujourd'hui de se projeter dans un monde dénucléarisé. Est-ce que vous constatez récemment une évolution des discours qui nous font accepter la guerre comme un mode de gestion du politique ?
Alors, sur cette inévitabilité, peut-être deux observations. La première, c'est que vous avez absolument raison, depuis les années 2010, la totalité des États dotés développent leurs arsenaux nucléaires en quantité, en taille ou en durée de vie. Mais, et ça c'est important, souvenons-nous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période sans précédent de non-prolifération horizontale, c'est-à-dire il n'y a pas de nouvel État doté, et donc il faut surtout faire en sorte de ne pas les encourager en ne valorisant pas inutilement les armes nucléaires. Et il faut se souvenir aussi que de 1987 à aujourd'hui, on a diminué de plus de 80% la taille des arsenaux nucléaires existants. Donc il n'y a pas d'impossibilité matérielle du démantèlement.
Vous écoutez Culture Monde, c'est le troisième épisode de notre série sur les mécaniques de la guerre. Aujourd'hui, la non-prolifération devenue l'excuse de toutes les violences. Les États-Unis et Israël officiellement ont attaqué l'Iran pour l'empêcher d'avancer dans l'enrichissement d'uranium, alors même que les installations nucléaires civiles iraniennes sont inspectées jour et nuit par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, alors qui admet aujourd'hui quand même n'avoir pas réussi à obtenir sur place toutes les informations qu'elle demandait.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, créée en 1957, est chargée de promouvoir les usages civils de l'énergie nucléaire et d'en limiter les applications militaires. Elle se présente comme une agence technique, sauf que l'enjeu autour du contrôle de la prolifération en Iran sont hautement politiques. Alors comment ces rapports et ces discours sont-ils éventuellement repris, mobilisés, influencés par les différents acteurs de cette guerre ? Bonjour Maïlys Mangin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Toulouse-Capitole, chercheuse associée au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques. Qu'est-ce qui est d'abord censé garantir dans son fonctionnement que l'AIEA a un rôle purement technique, celui de vérifier que les activités nucléaires civiles ne sont pas détournées à des fins militaires ? Qui lui confie ces missions à chaque fois ?
Alors, c'est la communauté internationale qui a missionné l'AIEA à travers des traités. D'abord, le traité de non-prolifération nucléaire, puis à travers certains accords ad hoc aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AIEA est une organisation intergouvernementale. Ses mandataires sont des États membres. Et lui ont conféré deux missions principales. Donc, d'une part, la mission qu'on oublie un petit peu souvent quand on parle de non-prolifération, c'est sa mission de diffusion de l'énergie nucléaire civile, et par ailleurs, donc celle de garantir à la communauté internationale l'accès à cette énergie civile ne permet pas de fabriquer des armes nucléaires.
Est-ce que
c'est une mission qui est étroitement liée au TNP, donc le traité de non-prolifération nucléaire, qui date donc de 1970. Dans le cadre duquel un certain nombre d'États se sont engagés à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Et c'est une mission qui est donc... C'est la mission de l'AIEA que de vérifier cet engagement.
Les enquêtes de l'AIEA, leur fréquence, le niveau d'information et documentation exigé par l'AIEA auprès de l'Iran en particulier, comment dépendent-ils directement des négociations diplomatiques autour de l'accord sur le nucléaire iranien ? Qui charge en l'occurrence l'AIEA d'être plus ou moins pointilleuse selon les périodes, selon la façon dont les négociations avancent ?
Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs missions de l'AIEA en Iran. Il y a d'abord la mission fondamentale que j'indiquais, puisque l'Iran est signataire, donc adhérent du TNP depuis 1970, et donc soumis à ce titre, depuis 1974, à des accords de garantie nucléaire conclus avec l'AIEA, et ces accords sont en vigueur depuis 1974. Ils sont assez rudimentaires dans les exigences qui sont demandées à ce titre. Mais ils sont quand même en cours depuis les années 70. Ce qui s'est passé et ce qui a augmenté les missions de l'AIEA en Iran, c'est qu'à l'été 2002, donc l'opposition iranienne en exil a révélé l'existence d'installations nucléaires clandestines qui étaient en cours de construction en Iran. Donc des installations qui auraient été légales aux yeux du TNP, mais dont l'absence de déclaration constituait une violation du traité. Et à partir de là, les activités de l'AIEA ont été de vérifier, de conduire une enquête pour déterminer l'ampleur des violations de l'Iran et rétablir que les garanties sur le caractère strictement pacifique des activités nucléaires iraniennes étaient respectées. Donc à partir de là, il y a un second volet aux activités de l'AIEA qui cette fois s'est vu aussi missionné par le Conseil de sécurité demander la vérification des résolutions du Conseil de sécurité. Et à partir de 2015, dans le cadre du JCPOA, donc l'accord nucléaire entre l'Iran et la communauté internationale, cet accord a dû être vérifié, qui était beaucoup plus contraignant que ce qu'exigeait le TNP aussi. Cet accord a été vérifié par l'AIEA jusqu'au retrait unilatéral des États-Unis en mai 2018.
Alors comment les États les plus engagés dans ces discussions, à commencer par l'Iran lui-même, mais aussi Israël et les États-Unis qui pendant une longue période ne l'ont plus été engagés dans ces discussions mais qui continuent à suivre de près ce qui se passe en Iran et sur ce dossier, comment ces États utilisent les rapports de l'AIEA ? Est-ce que chacun, de ce que vous en observez Maïlys Mangin, est-ce que chacun en a depuis le début une interprétation différente ?
Oui, alors il faut bien avoir en tête qu'effectivement, ce sont des missions techniques, des missions de vérification, d'inspection qui sont données à l'AIEA. Mais ces activités restent hautement politiques, et tout particulièrement dans le cadre de l'Iran, notamment parce que les implications de ces rapports sont très politiques. Et ici, donc, il faut comprendre un petit peu le nerf de la guerre de l'opposition entre Washington et Téhéran, qui a porté, en fait, pendant plus de 20 ans, sur un point de désaccord majeur, c'est-à-dire sur la manière de réguler les activités nucléaires iraniennes, et plus particulièrement sur le niveau d'enrichissement acceptable. Donc, les États-Unis étaient autour d'une position de zéro enrichissement tolérable en Iran pendant la plupart de ces 20 dernières années, là où l'Iran maintenait la volonté d'avoir une petite capacité d'enrichissement sous surveillance. Et donc dans le cadre de ce rapport de force qui se jouait sur les capacités d'enrichissement en Iran, on a vu effectivement les rapports notamment être utilisés de façon assez diverse selon les États, selon les parties prenantes à ce désaccord. Donc c'est une matière très sensible. Et l'AIEA a aussi un rôle d'expertise technique fort, mais mobilisé pour trancher des débats qui sont en réalité très politiques. Et on l'a vu par exemple en mai dernier avec le rapport qui est sorti donc fin mai, quelques jours avant la guerre des 12 jours entre l'Iran et les États-Unis, où en fait le rapport de l'AIEA a été cité donc dans ces éléments où l'Iran dépassait désormais de 45 fois les limites autorisées par l'accord nucléaire de 2015, où l'Iran, on rappelait aussi que l'AIEA avait établi que l'Iran avait possédé un programme nucléaire structuré non déclaré au début des années 2000, sans forcément rappeler qu'il s'agissait de quelque chose qui était effectivement terminé depuis le début des années 2000, et sans rappeler que l'agence avait aussi affirmé en même temps que au jour d'aujourd'hui, l'AIEA ne disposait pas d'éléments ou d'indications crédibles de l'existence d'un programme nucléaire structuré non déclaré, ce que Raphaël Grossi a encore rappelé il y a quelques jours.
Donc
c'est ce jeu, en fait, si on parle beaucoup de politisation de l'AIEA, et s'il y a politisation, c'est pas au sens où elle choisirait en camp, comme c'est parfois, ça lui est parfois reproché, où elle serait partisane, mais c'est plutôt au sens où chaque camp trouve dans son expertise technique des munitions politiques pour marquer des points dans la négociation, notamment pour forcer l'adversaire à des concessions sur la question du niveau d'enrichissement acceptable.
Donc chaque État a sa propre interprétation et utilisation des rapports faits par l'AIEA, mais est-ce qu'en amont, l'Agence internationale de l'énergie atomique peut faire l'objet de pression d'un État ou d'un autre ? Est-ce que l'Agence en est déjà plainte ?
Alors les pressions sont subtiles dans ces cas-là. Le technique ne s'oppose pas au politique, les deux s'articulent. C'est ça qui est, comme le droit international ne s'oppose pas au rapport de force interétatique. On voit souvent que ce sont des espaces dans lesquels les rapports de force sont poursuivis par d'autres moyens. Donc il y a des jeux effectivement politiques en interne, déjà parce que l'AIEA est une organisation intergouvernementale, donc il y a des rapports de politique au sein de cette institution qui pèse sur ses décisions, mais qui peuvent peser aussi sur son expertise technique de manière assez subtile en réalité. Faut pas être caricatural là-dessus. On peut essayer, parce que les États n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes capacités pour maîtriser cette dimension technique des missions de l'AIEA, et pour essayer effectivement d'en tirer parti dans le cadre de leurs objectifs politiques. Donc on peut voir par exemple des services de renseignement communiquer sur les activités nucléaires ou dites nucléaires de l'Iran, pour essayer de concurrencer les verdicts de l'AIEA sans toujours donner toute la complexité et les nuances qui seraient nécessaires pour bien contextualiser ces activités, ce que l'AIEA, elle, fait de manière très rigoureuse.
Pour conclure, Mélisse Mangin, est-ce qu'on peut dire que cette guerre est un contournement de l'AIEA, le fait que les États-Unis et Israël aient décidé de bombarder officiellement au nom de la non-prolifération, alors que l'AIEA était beaucoup plus mesurée? Est-ce que c'est une façon de contourner l'AIEA, de se passer in fine de son avis et de ses rapports, comme on le fait avec le droit international ou le Conseil des Nations Unies quand il s'agit en ce moment d'attaquer un État?
Oui, c'est un contournement, et c'est un contournement qui est sans doute assez malhabile. Parce que en réalité, donc, on parle beaucoup aussi aujourd'hui de l'affaiblissement du droit international, et on écoute le président Trump qui souvent décrit le droit international comme l'arme des faibles. Ce qu'il manque dans cette vision, c'est qu'en fait, le droit international, c'est surtout d'abord l'arme des forts. Donc je l'indiquais, on peut beaucoup utiliser ces outils aussi à des fins de rapports interétatiques. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis avaient jusqu'à présent fait le choix, peut-être plus lent, peut-être un peu frustrant parfois, de composer avec les institutions internationales. Et là, effectivement, c'est un choix inverse qui a été fait de la part de Donald Trump.
Merci beaucoup, Maëlys Mangin, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Toulouse-Capitole, chercheuse associée au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques. Merci d'avoir été avec nous. Benoît Pelopidas, vous vouliez dire un mot sur l'AIEA et ses rapports qu'on peut, à l'infini d'ailleurs, remettre en cause. C'est ce qu'ont fait les États-Unis et Israël.
Oui, deux choses. Une sur le statut de cette incertitude. Il faut que vos éditeurs se rendent compte que les soupçons de prolifération sont infalsifiables. C'est-à-dire, celui qui veut accuser autrui de prolifération clandestine pourra toujours dire que l'accusé n'a pas prouvé son innocence.
C'est ce qui s'est passé en 2003 avec Saddam Hussein.
Voilà.
Il n'arrivait pas à prouver qu'il n'avait plus d'armes de destruction massive.
Parce que l'AIEA pourra toujours dire qu'elle n'a pas accès à toutes les installations, et ça sera vrai. Et il y a, matériellement parlant, un décalage entre les matières fissiles qui entrent et sortent des centrifugeuses. Ce décalage fait qu'on peut toujours dire qu'il peut y avoir des matières fissiles qui vont être détournées à des fins de prolifération. C'est pour ça, si vous voulez, du fait de cette incertitude irréductible, que si on se convainc que l'usage de la force est nécessaire et efficace, et on a discuté sur le fait que c'était ni nécessaire et bien souvent contre-productif, alors, trop facilement, on va autoriser la légitimation a priori d'usage de la force. Il faut se souvenir quand même que la guerre en Irak, c'est 3 000 milliards de dollars. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est juste un renvoi à une émission qu'on a fait ensemble sur Culture Monde, juste pour que vos auditeurs quand même se rendent compte que là, on fait toute l'émission sur le problème de la prolifération, c'est-à-dire des armes qui n'existent pas encore. Il ne faudrait pas se raconter que les 12 000 armes nucléaires qui existent aujourd'hui, elles n'ont jamais explosé. Il y a eu plus de 540 explosions nucléaires atmosphériques et on a évité des explosions nucléaires non désirées. Par chance, on en a parlé ailleurs. C'est juste pour rappeler ça.
Et notamment les essais. Hein, vous, dans les 540, vous comptez les essais. Merci beaucoup, Benoît Pelopidas, d'être venu aussi dans Culture Monde. Et ça vous paraissait très important de montrer comment cette guerre contribue encore aujourd'hui à augmenter le niveau d'acceptabilité de la violence pour répondre à un enjeu présenté comme impérieux, alors que tout est beaucoup plus compliqué, comme vous nous l'avez expliqué. Merci beaucoup. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Repenser les choix nucléaires, paru aux presses de Sciences Po.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale. Présentée aujourd'hui par Estelle Kammerer, cette revue de presse internationale qui va voir dans la presse que dit notamment l'investiture du premier chef d'État d'extrême droite au Chili depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 90. José Antonio Cast est investi ce matin.
José Antonio Cast, un ultra-catholique de 60 ans, dont le père était membre du parti nazi, a systématiquement bloqué les initiatives progressistes en faveur des droits des femmes, et ce, tout au long des 30 ans de sa carrière politique. Ce sont les premières lignes d'un article du Guardian, écrit moins de 3 jours après le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes et des militantes chiliennes qui se demandent à quoi s'attendre, explique une éditorialiste d'El País. Le quotidien hispanophone raconte que le slogan de la marche de dimanche à Santiago, la capitale du Chili, était le suivant: pas un pas en arrière, mais 100 pas en avant. Plus de 500 000 femmes ont manifesté dans les rues, selon le Guardian, soutenues par des associations et des syndicats qui redoutent également un retour en arrière. Comme Fedeprus, une organisation de défense des droits des professionnels de la santé en faveur de l'avortement. Sergio Gomez, le président de l'association, a été interrogé par la chaîne télévisée Señal en Vivo Sur pendant la marche. Nous savons bien qu'avec Cast, nous allons revenir sur beaucoup de droits, ce que nous avons acquis, et nous risquons même de perdre notre travail et de perdre les conditions de travail que nous avons gagnées dans la rue. L'investiture de José Antonio Caste marque aussi l'arrivée de sa ministre des Affaires féminines, Judith Martin. Chrétienne évangélique et militante anti-avortement, elle avait perturbé une séance du Sénat sur la dépénalisation de l'IVG en 2017 en criant « Retournez au Seigneur » avant d'être expulsée de force par la police, raconte The Guardian.
Car au Chili, Estelle Camerer, l'avortement est autorisé depuis 2017 selon trois conditions.
Seulement en cas de danger pour la vie de la mère, de l'enfant ou en cas de viol, rappelle le quotidien britannique. L'IVG a d'abord été autorisé en 1930 pour raison médicale au Chili, puis totalement interdit en 1989 par le général Augusto Pinochet, l'un des derniers décrets du dictateur. Et malgré une campagne axée sur l'immigration et la sécurité, la position sur l'avortement de José Antonio Caste, grand nostalgique de Pinochet, n'a pas changé. Le quotidien bolivien Bizion 360 souligne qu'avant sa victoire, Caste avait promis, lors de ses deux dernières campagnes, d'abroger l'avortement dans les trois cas autorisés. Gabriel Boric, le président sortant, avait ouvert le débat au Parlement l'année dernière pour autoriser l'avortement jusqu'à 14 semaines, un an avant son départ, donc bien trop tard, déplorent les associations féministes chiliennes dans les colonnes du Guardian. Gabriel Boric, qui a d'ailleurs prononcé hier soir son dernier discours à la Nation, le dirigeant de gauche a affirmé que le Chili est un bien meilleur pays qu'il y a 4 ans.
Y les prometo que durante todo este tiempo.
Je vous promets que durant tout le temps du mandat, j'ai donné le meilleur de moi-même pour assumer cette immense responsabilité. Et je peux vous assurer, comme je l'ai dit samedi, que je pars avec la tête haute et les mains propres.
Con la frente en alto. Y con las manos limpias.
Mais les militantes féministes regrettent qu'un président dont le mandat était qualifié de féministe n'ait pas réussi à faire passer un projet de loi pour autoriser l'avortement gratuit comme promis, raconte El Desconcierto. Le journal de gauche chilien explique qu'un vote a été organisé dans l'urgence la semaine dernière en pleine mutation gouvernementale à la commission de la santé pour autoriser l'IVG. Un vote serré, 7 voix pour, 6 contre, qui permet de faire avancer le texte dans son processus législatif. Mais l'arrivée d'un anti-avortement au pouvoir risque de clore le débat bien plus vite que prévu.
Pour conclure, vous nous emmenez en Espagne où le gouvernement organise également une cérémonie, alors pas pour des élections, mais pour célébrer un groupe de 53 survivantes de la répression franquiste.
Sur un autre article du Guardian, on voit des photos de jeunes adolescentes et d'autres de couloirs vides et austères. Ce sont ceux des institutions religieuses dans lesquelles ces femmes ont été enfermées avant leurs 20 ans par le Conseil pour la protection des femmes en Espagne. Pour quelles raisons ? Eh bien, la dictature franquiste s'appuyait sur une idéologie conservatrice et nationale catholique. Elle voulait rééduquer les jeunes femmes qui s'écartaient des normes établies par l'Église. Une cérémonie qui sera organisée 10 jours après l'arrivée d'un ultra catholique anti-avortement et nostalgique d'un dictateur de l'autre côté de l'Atlantique. Et ces 53 femmes graciées ne sont qu'un échantillon des victimes. Le Guardian raconte que plus de 1600 femmes ont témoigné auprès d'une enquête du gouvernement espagnol. L'une d'elles était soupçonnée d'être lesbienne, une autre était trop attachée à la rue, d'autres étaient simplement dénoncées par leur famille ou leurs voisins avant d'être enfermées sans raison. La cérémonie, qui se déroulera le 20 mars à Madrid, vise à reconnaître les torts de la dictature franquiste, mais aussi l'implication des ordres religieux qui ont présenté leurs excuses l'année dernière. Mais les associations de victimes ont rejeté la grâce et les excuses. Elles demandent aujourd'hui vérité, justice et réparation, notamment pour rappeler la complicité des gens ordinaires qui contribuaient au contrôle du corps des femmes par les autorités.
Merci Estelle Camerer. Dans un instant, les Midis de Culture.